Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Le Dérangeant. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez lefondsftq.com/entreprise.
Bonjour à tous, ici Étienne Crevier à l'animation de ce nouvel épisode des Dérangeants, fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ et propulsé par Astérix Québécois. Les Dérangeants, c'est quoi? Après une saison complète, vous êtes au courant là, quand même. On est le Bordel Comedy Club, tout le monde en parle, des entrepreneurs. On est habituellement accompagné de Dominique Gagnon, Carlo Coccaro, Marc-Claude Duquette. Mais cette semaine, j'ai la chance d'avoir notre dame de cœur avec nous, notre Anne Martel. Comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va bien, merci. On est également avec notre chef en série.
Je t'attendais comme le Joker. Ou
le Joker, le plat de vue, notre coureur des bois en chef, Louis-François Marcotte. Ça va bien?
Oui, merci.
Et notre sujet qui s'en vient, qu'on vous garde, et aussi restez avec nous parce qu'à la fin, on a notre question dérangeante où est-ce qu'on va quand même s'ouvrir un petit peu plus que d'habitude pour cet épisode-ci. Mais on a Fabien Major. Salut Fabien.
Salut.
Je suis un grand fan de ton podcast qui est à la fois finance personnelle, planification financière. Tu es planificateur, conseiller financier, tu es propriétaire d'une bannière ACNT à Outremont.
Oui.
Et tu viens du domaine, en fait, de la radio à la base. Peux-tu nous raconter comment est-ce qu'un gars de médias, finalement, fait le saut vers la finance?
Oui, bien, je dirais que à 33 ans, j'ai commencé à faire de la radio très jeune, la radio étudiante, tout ça. À 13 ans, je commençais à m'intéresser aux communications. Mais officiellement, la radio étudiante, 18 ans, je travaille en région, La Chute, Hawkesbury, Sainte-Adèle, Magog.
T'as envie de manger des ramen?
ça, au début, à la fin, un peu moins. Et puis ça m'a amené, début trentaine, à l'antenne 98.5. J'étais Morning Man avant Paul Arcand.
Ah, pour vrai?
Ils ont vendu la station et l'ont changé de format. À ce moment-là, Jean-Pierre Coilier avait vendu. Et puis, moi, je me questionnais à mon avenir à ce moment-là. Père de famille, je vois que les fins de mois sont très aléatoires. Puis, quand j'ai laissé les études pour la radio, ça m'a laissé un espèce de petit remords en disant, pourtant, j'étais bon, j'aimais ça, les études. Alors, j'ai tout simplement recommencé à étudier. J'ai
retourné sur les bancs d'école.
Exactement, exactement. Puis là, je suis allé non pas avec l'idée de juste finir mon temps, comme on voit des fois à l'école, c'est une mauvaise période, mais là, je suis allé avec intérêt en me disant, je vais avoir un plan B si la radio décide pour moi que c'est terminé. Et puis, je suis tombé en amour avec mon plan B. Et puis, à partir de ce moment-là, 98-99, j'ai jamais cessé de faire de la radio, de la télé, mais comme chroniqueur invité en finance, en économie.
Bien, c'est mission accomplie parce que pendant la pandémie, tu as lancé ton podcast,
ouais,
qui est quand même un franc succès, on ne se le cachera pas. Tu es dans les palmarès au Québec de podcast.
Oui, j'ai vu qu'à Apple, le podcast était numéro un francophone au Canada dans la section business. Bien fier de ça.
Nous, on est deuxième. Fait que, c'est pour ça qu'on t'invite, en fait. On veut aller chercher ton following.
Non, c'est pas vrai. Ben, il suffit de se trouver une nouvelle catégorie et on est tout temps.
C'est comme la radio.
Exactement. On est tous numéro un quelque part.
Numéro un dans le podcast dans l'Est de l'île. Ça va être notre créneau. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, je veux prendre de vos nouvelles, savoir comment ça va votre vie. Est-ce que, je vais commencer avec toi, Louis-François, comment ça fait longtemps qu'on t'a vu?
Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu. Ça va très bien. Moi, j'ai déménagé.
C'est fait.
Moi, c'est fait. Donc,
t'as downsized. Je pense que t'as été dans le minimalisme.
Mais on a réduit, oui. On s'est aussi rapproché des centres, des écoles, des business. Fait que on facilite notre quotidien avec des jeunes, des ados, puis un quotidien plus flexible.
Puis tu vois-tu une différence? T'es-tu plus...
Ben, ça fait deux semaines, mais oui. Mais oui, tout à fait.
T'étais où ce matin? Anne, toi, comment ça va ce matin?
Ben moi, j'ai pas le même niveau d'optimisme qu'élève ce matin, mais il faut dire que c'est la saison des impôts, puis j'étais en plein dedans en train d'aller chercher tous mes feuillets puis mes documents ce
T'avais
matin.
T'avais combien de tes quatre, mettons, là?
Ben non, mais pas tant que ça, tu sais, je facture, fait que c'est pas la même chose, mais c'est plus les placements, les ci, les ça, ça devient compliqué d'aller chercher toute l'information.
Fais-tu des acomptes provisionnels?
Oui.
OK. Fait ouais. Que t'auras pas de grosse surprise. Moi, j'attends malheureusement une grosse surprise cette année. Je croise les doigts. Fait que c'est probablement pour ça que je les retarde, mes impôts, finalement.
Je fais de l'évitement.
J'ai un ami qui a toujours dit, quand t'en fais, t'en payes. Ouais.
C'est vrai. Ouais. C'est quoi? Il y a deux certitudes dans la vie, la mort, et tu vas payer tes impôts. Là, ouais. Inquiète-toi pas là-dessus.
L'entrevue de la semaine. Une présentation du quartier général de l'audace du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur, visitez qgda.ca.
Donc, avant de tomber dans le vif de notre débat de la semaine au niveau de la retraite, on a une experte du Fonds de solidarité avec nous, Isabelle Renaud. Merci d'être là.
Bien, merci, Étienne, pour l'invitation.
Ben, ça fait plaisir. En fait, peux-tu me décrire, c'est quoi ton rôle exactement au fond?
Je vais y aller avec mon titre, fait que ça donne une bonne idée. Là. C'est chef du développement de l'épargne retraite et du Centre de formation économique du Fonds de solidarité de la FTQ.
J'aime ça, c'est assez complet.
Je suis quand je le dis. Là, fait que...
Puis en fait, donc, dans le cadre de ton rôle, tu travailles directement avec des entreprises pour implanter des bonnes pratiques de retraite, des bonnes pratiques de REER. Puis on dit souvent au Québec, on vit une crise de la retraite. C'est pas, on fonce peut-être dans un mur. Qu'est-ce que ça veut dire, cette crise-là?
Je suis contente que tu nommes le mot « crise » parce que c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre. Je vais donner des exemples bien concrets là, pour expliquer ça. Première des choses, si une personne décide de juste se fier sur les régimes publics, par exemple, la régie des rentes, la sécurité,
la pension
vieillesse, ouais. Supplément de revenus garantis. Tu sais, ça, c'est pas une prime. Là. Quand tu reçois le supplément de revenus garantis, c'est parce que tu fais partie des plus précaires. Donc, si tu te fies juste à ça pour arriver à la retraite, tu vas être condamné à la pauvreté.
Tu es au seuil de pauvreté.
Oui. Tu vas pouvoir tenir ta tête en dehors de...
Puis on en parle souvent, les entrepreneurs, on en a parlé dans notre épisode sur les finances personnelles, c'est 80-90% de leur valeur nette est dans leur entreprise, puis des fois, ils ne pensent pas cotiser ailleurs. Mais concrètement, de la part d'un entrepreneur, c'est quoi le rôle qu'il peut, lui, avoir sur la retraite de ses employés? Comment il peut aider à, justement, éviter cette crise-là?
Les entrepreneurs, ils ont tellement un grand rôle à jouer là, dans cet enjeu de société-là. Premièrement, quand tu sais que tu vas avoir beaucoup de retraités qui vont arriver, puis à un moment donné, ils n'auront pas d'argent pour se payer des services, des produits. Tu sais, quand on dit que c'est un enjeu de société, tout le monde va payer le prix de ça. Mais les employeurs, ils peuvent vraiment jouer un rôle important parce que eux, ils ont la possibilité de mettre des solutions faciles à la disposition des travailleurs et des travailleuses pour leur permettre d'économiser des choses vraiment faciles. Tu sais,
ça, c'est le retrait à la source, mettons, là, la cotisation à la source sur la paye.
Ben oui. Exactement.
Y a-tu d'autres choses?
Bien, premièrement, toute la question, comme tu dis, là, tu sais, cotiser paye en paye. Il faut que tu commences, pour avoir une bonne retraite, il faut que tu commences à cotiser tôt. Puis il faut que tu aies des réflexes d'épargne automatique. Ça, là, c'est vraiment un super bon truc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis pour les employeurs de mettre en place. Puis aussi, on le sait, on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.
Fait que tu vas attirer du talent.
Bien.
Tu le mets en place et tu cotises un peu avec eux. En fait, moi, tu vois, j'avais la barrière psychologique dans beaucoup de mes entreprises. Moi, j'ai attendu d'avoir 50 employés avant de le mettre en place. À partir de combien d'employés c'est possible d'offrir le REER collectif?
Bien, c'est là que c'est vraiment intéressant de parler de la solution du REER Plus qu'on peut mettre de l'avant au Fonds de solidarité de la FTQ. Parce que moi, tu sais, s'il y a une affaire que j'aimerais ça que les gens retiennent, c'est que c'est facile.
En fond, ça coûte juste du temps pour l'entreprise. Après ça, il décidera s'il veut bonifier. Parce que l'employé qui met un 2, 3, 4 % de son salaire dans un REER Plus, ben c'est de sa paye. Puis l'entreprise n'est pas obligée de matcher.
L'employeur
n'est pas obligé de matcher.
Il n'est pas obligé. Mais quand on parlait de stratégie de rétention de main-d'œuvre, ça peut commencer par des petits montants, mais plus que l'employeur aussi décide de contribuer. Bien, tu sais, ça fait partie des stratégies de rétention de main-d'œuvre. Puis ça fait peut-être en sorte que la personne, elle va dire... OK, c'est beau le salaire, tout ça, mais il y a d'autres avantages sociaux qui font que moi, j'ai le goût de rester travailler dans cette entreprise-là puis pas aller ailleurs.
Mais non, puis c'est un bon facteur de rétention. C'est si tu restes 2 ans avec moi, là, tu gardes ma cotisation que je t'ai offerte comme employeur. Puis qu'est-ce que le REER Plus, il y a un boni, si je me trompe.
Ben oui. Bon, REER, habituellement, quand tu vas dans n'importe quelle institution financière, tu as ta déduction REER, ça, c'est commun. Sauf que la particularité du Fonds de solidarité FTQ, là, c'est que tu vas ajouter à ça un crédit d'impôt de 15 % fédéral puis 15 % provincial. Donc, tu as un 30 % de crédit d'impôt supplémentaire qui viennent s'ajouter à ta déduction REER. Donc, par exemple, pour avoir, parce que tu as le droit des crédits d'impôt jusqu'à 5 000 $ Donc, pour avoir ton 5 000 $ mais ça va t'en coûter quoi, 1 500?
C'est fou, pareil. Puis, c'est pas accessible aux travailleurs, en moins que son employeur l'ait mis en place.
Exactement.
Donc, l'employeur...
Il y a juste besoin de le mettre en place, de l'offrir, c'est là. Les employés peuvent le prendre, ne peuvent pas le prendre, mais ils ont accès à un REER plus avec 30 % de boni. C'est quand même un no-brainer.
J'ai même envie de te dire, avoir une retraite à la hauteur des rêves des employés, parce que ça, c'est encore plus beau. Puis c'est plus porteur, je trouve.
Bien, Isabelle Renaud, merci beaucoup.
Bien, merci.
Fait que si on veut en savoir plus sur le site du Fonds de solidarité?
Site du Fonds de solidarité, vous nous appelez. Il y a plein de façons faciles de nous rejoindre. Ça va nous faire plaisir.
Génial.
Merci.
Les dérangeants sont fièrement supportés par le cabinet Blue & Chef Légal. Réflexion juridique, réflexe d'affaires. Communiquez avec nous pour vos besoins en droit des affaires et des technologies.
On est de retour pour notre débat d'aujourd'hui, en fait, sur le sujet de la retraite. La retraite chez les entrepreneurs, c'est quoi? Comment, quand est-ce qu'on le vit? Est-ce que c'est un jour? Est-ce que c'est une utopie, en fait, de penser qu'un entrepreneur peut prendre sa retraite quand il y a 70, 80, 90 % de sa valeur nette personnelle qui est dans son entreprise? Et après ça, est-ce qu'il met de l'argent de côté? Est-ce qu'il peut se permettre d'avoir des REER, des CELI? Et donc, on veut démystifier cette question-là aujourd'hui ensemble. Et on a plusieurs cas de figure avec nos trois dérangeants et avec Fabien Major qui est là pour nous accompagner, nous donner son expertise. Et en fait, tu as le mandat et la mission de nous dire si on est tous dans le champ pour nos retraites. Et je vais devoir faire des calculs pour nous dire, « Guys, venez appelez-moi après l'épisode. » Mais je commencerai avec la simple définition, en fait, et de savoir, Anne, Louis-François, c'est quoi la retraite pour vous? Je vais commencer avec toi, Anne.
Écoute, c'est la chose qui me donne, je pense, le plus d'anxiété, cette question-là.
C'est pour ça qu'on t'a choisi pour l'épisode.
Je sais, c'est sûr. C'est drôle. Parce que
moi, l'urticaire.
Non, c'est ça, j'ai la veine qui me sort dans le cou. Mais pour vrai, le truc avec la retraite, c'est que moi, je me vois jamais arrêter de travailler. Par contre, je me vois changer la façon dont je travaille, ça, c'est clair. Je pense que je vais atteindre un stade de liberté où je fais ce que je veux quand je veux, à peu près 80 % du temps, puis 20 % du temps, mais je suis prise avec mes projets que je contrôle pas.
J'ai déjà l'impression que tu fais ce que tu veux dans la vie.
Je suis pas là encore, en ce sens que, bon, il y a l'aspect utilisation de mon temps, là, ça oui. Après ça, il y a l'aspect financier. Tu sais, je veux encore être capable de piler un petit peu, puis de pouvoir profiter pendant que j'ai des temps libres là, d'argent, faire des activités et des voyages.
Fait qu'en ce moment dans ta vie, tu ne sors pas tes économies. Tu ne touches pas à tes économies encore.
J'investis. Fait que je sors de mes économies pour essayer de propulser des nouveaux projets puis créer des nouvelles entrées d'argent.
Ces nouveaux projets-là, ils ont des horizons de 5-10 ans. Donc, tu dis, t'es pas
peut-être
là encore.
Même plus, là. Tu sais, je me vois travailler, tu sais, très activement encore un bon 20 ans facilement.
OK. Quel âge as-tu? Excuse-moi.
Mais j'ai 41. Tu sais, fait que un bon 20 ans là, de travail viatier. Normal. Là. Et puis après ça, de continuer, tu sais, dans des rôles d'aviseur, mais d'être impliqué dans des business, mais d'avoir plus des streams de revenus passifs, tu sais.
OK. Puis toi, Louis-François, c'est quoi la retraite pour toi?
Moi, c'est loin. parce que je suis dans un... On a 41.
C'est loin physiquement ou c'est loin temporellement?
Temporellement. Je trouve que la retraite, pour moi, dans le style de vie que j'ai, je pense qu'il y a une énorme latitude au quotidien. En même temps, des fois, je suis hyper pris dans d'autres choses, mais c'est aussi des projets que moi, je vais stimuler. Fait que, tu sais, quand je sais que je pars un projet ou j'embarque dans un projet, je sais que j'en ai pour une période X, puis il y a des périodes aussi...
Ça prend à peu près plein. Au moins 3, 4, 5 ans avant que ça soit break-even
projets
exact. Dans ton cas. Là.
Mais tu sais, pour revenir à la retraite, je pourrais avoir des business longtemps, moi. Tu sais, j'ai des chums qui ont 60 ans. Ils sont pas à retraite pantoute, là. Mm. Fait que pour moi, c'est dans 20 ans. Fait que moi, dans 20 ans, il y a bien des affaires qui
là,
peuvent se passer. J'ai 41. Comment?
OK.
Fait que...
C'est la barbe, je pense, qui vieillit.
Les cheveux blancs. mais tu sais, c'est... Fait que pour moi, je sais qu'il faut la prévoir. J'ai déjà ça dans mon système financier, mais en même temps, des fois, d'avoir pilé pour ma retraite à l'âge que j'ai là ou faire un autre projet... Ouf.
C'est
l'entrepreneur, il prend le dessus, puis c'est sûr que la retraite, elle va être tantôt, puis j'ai le temps d'en mettre de côté encore. Mais ça, c'est moi, puis c'est les risques que j'accepte de prendre.
Puis, en fait, Fabien, je serais curieux de savoir à quel point est-ce que dans ta clientèle de beaucoup d'entrepreneurs?
Mais le mot retraite, c'est un mot que moi, j'utilise très peu.
Ah ouais?
Ouais, je vais parler d'autonomie financière, et c'est la journée où on est capable de dire, ça ne me tente pas, je me lève pas.
C'est
le geste. Je suis dans un Club Med, Michel Esmeralda, ça va bien. Et je colle le desk une semaine de plus, puis c'est pas grave.
Puis il n'y a pas de conséquences.
Il n'y a pas de conséquences.
Mais c'est vrai qu'au Japon, le concept de retraite n'existe pas. Mm-hmm. En fait, c'est une migration. Tu prends jamais, tu deviens conseiller, tu deviens finalement accompagnateur, tu deviens mentor. mais il a percé. C'est une vie active jusqu'à la fin. Là. Mm-hmm. Donc,
puis... Et c'est ça que je vois souvent, où les gens se disent ce qui était répétitif, ennuyant ou encore difficile au niveau stress mental et physique, ça, j'aimerais que ça cesse à un moment donné pour passer à d'autres choses puis être plus libre de mon temps. Puis une majorité de retraités que j'ai conseillés, au bout d'un an, là, me disent, tu sais, le troisième verre de champagne, il goûte le crème soda.
Anyway.
Je n'ai pas besoin vraiment plus que deux. Et puis, la quantité devient le nécessaire. C'est plus l'abondance souhaitée. C'est une quantité pour dire, OK, c'est cool, ça va. Mais la surabondance, c'est pas un
objectif. François.
Mais ce que je trouve le fun dans cet aspect-là, c'est de dire aussi, tu fais quoi? Tu sais, tu dis, OK, tu sais, ta semaine de vacances. Mais moi c'est beaucoup plus l'occupation.
Ouais.
Le financier, je le vois secondaire, mais j'ai toujours l'exemple, j'ai un chum qui est policier, qui là aurait le droit d'arrêter. Bon, on sait que les policiers, en général, ils ont des retraites
à 50 ans,
très tôt, mais il pourrait prendre sa retraite. Il est rendu là dans le cycle. Il a eu du fun parce qu'il a eu des postes extraordinaires. Il a fait un métier de police super intéressant. Là, il commence à avoir des postes un petit peu plus seniors. Fait qu'il, là, tu fais quoi? T'sais, lui, il dit, je pourrais arrêter, là. Tu sais, pas mal à salaire égal, je vais dire, là.
Ouais.
Puis, fait qu'il pourrait ne pas travailler puis avoir la même entrée
d'argent. Le même niveau de vie.
Ou à peu près. Puis là, tu dis, je fais quoi?
C'est ça, les gars, ils pensent moins, ils s'investissent, je dirais, mentalement. Tu sais, quand on dit que des gars peuvent pas faire deux choses en même temps, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai.
Moi, je suis d'accord.
Ouais. Et les femmes vont se projeter dans l'avenir. Et il y a aussi une capacité de dire, je fais d'autres choses. Ben, je vais faire l'équitation. Ben, je vais, me partir d'une petite business complètement différent au niveau artistique. Alors que la personne travaillait plus en gestion. Ça, j'entends ça et ça vient très souvent. Mais arrêter, là, c'est rare.
C'est rare. Mais ça me rassure un peu parce que moi, je vous écoute parler puis j'admire votre présence avec ce concept-là de dire, mais je vais évoluer vers d'autres choses parce que moi, le gros stress que j'ai pour ma retraite, c'est de dire, peu importe ce que je fais, je le fais avec intensité.
Ouais.
Puis on dirait que je me vois, je sais pas quand est-ce que je vais être capable de faire quelque chose avec pas d'intensité puis je le fais toujours sur le bord du burn-out. Probablement que 2023, honnêtement, j'ai fait un burn-out tellement que j'en ai... Tu sais, j'ai dit oui à trop de choses.
Ouais.
Fait que, est-ce que la retraite passe automatiquement par dire non? Apprendre à dire non, puis d'en avoir moins?
Ça me fait passer une rencontre que j'ai eue il y a quelques années avec Charles Sirois.
Oui.
Qui a bâti plein de belles grandes sociétés.
La plus connue qui étant Fido.
Non. Télésystème qui est Fido. À l'origine de Belle Mobilité.
Oui, c'est vrai.
Mais il était chef du conseil d'administration de la CIBC. Puis Charles Sirois faisait, avec la Caisse de dépôt, des rencontres avec des entrepreneurs pour le transfert intergénérationnel.
Oui.
Puis Sirois disait, assez tôt, j'ai compris que je suis un bon propriétaire, mais un piètre administrateur. Puis je pense qu'à la retraite, on peut demeurer moins administrateur, plus propriétaire.
Oui. Ah ouais. Oui, tout à fait.
La plupart des entrepreneurs, on le disait en introduction, vont avoir une grande majorité de leur capital, de leur valeur nette dans leurs entreprises. Mmh. Il y a eu un article de la presse récemment sur les cidreries Jodoin qui disait justement qu'à 60 ans, c'est la première fois qu'il a mis des REER. Parce qu'avant, il comptait, c'était son entreprise qui était « all in ». Avez-vous des REER, oui. François?
Ben, j'en ai, mais tu sais, en même temps, entrepreneur, tu ne payes pas nécessairement au début des gros salaires. Fait que ta capacité de cotisation, tu sais, c'est pas nécessairement maxé.
De 18%
Oui, c'est pas toujours maxé, tu sais. Fait que oui, j'en ai, puis je sais même pas ça vaut combien, puis ça, tu sais, ça a pris de la valeur, c'est sûr, mais tu sais, c'est pas là que ma retraite viendra pas de mes REER, pas en tout.
Toi, Louis-François, c'est un accident, tes REER.
Oui, oui, parce que l'UDA, l'Union des artistes,
c'est vrai.
Moi, j'ai fait des années de télévision quotidienne. Donc, j'avais un show par jour, on faisait beaucoup, beaucoup de télé.
Oui.
Et eux te placent un REER, fait que tu le vois pas passer, puis à un moment donné, tu te ramasses avec des...
8% de chaque cachet.
Oui, wow, là, tu fais du volume. Puis tu te ramasses avec...
Il est-tu gelé là? Tu peux-tu le sortir à un moment donné?
Ben, je pourrais jouer avec, mais tu sais, il est là. Fait que moi, je me dis, ça, c'est pour moi une belle petite sécurité que j'ai bâtie, qui qui à 40 ans, avoir ce volume-là, moi, je trouve ça assez cool. Fait que, fait que c'est comme si j'avais un check dans mon affaire de fête. Mm-hmm. Puis il est là. Fait que ça, pour moi, je ne vais pas jouer là-dedans. Mm-hmm. Ça ne vaudrait pas la peine. Après ça, je peux m'amuser avec d'autres fonds.
Ne pas être aussi à risque, aussi exposé. Fabien, tu le vois-tu, des entrepreneurs mettent de l'argent de côté pendant leur entreprise ou automatiquement les gens attendent à la fin ou attendent de vendre?
Non, en fait, on conseille même de le faire pendant l'exploitation de l'entreprise, surtout avec les entreprises cycliques. Puis normalement, c'est pas d'avoir une
cyclique. Qu'est-ce qu'une entreprise cyclique?
C'est une entreprise comme une agence immobilière.
Okay.
Ça, c'est un bel exemple d'entreprise cyclique parce que l'immobilier, avec la hausse des taux d'intérêt, a atteint son pic de son cycle. Et les taux vont baisser. Il y a peut-être un nouveau cycle qui va débuter, mais des fois, c'est plus simple que ça parce qu'ici, il y a le phénomène de pénurie de logements qui entre simultanément. Là. Mais alors, quand on est cyclique, il y a les ressources qui sont aussi très, très cycliques. Puis même les technologies sont cycliques. Ils sont reliés aussi avec la facilité d'emprunter.
C'est vrai.
Mais dans un secteur cyclique, ben, ce qui arrive, c'est que des fois, on a des grosses bourrées et puis l'argent rentre. Puis la game, souvent, c'est de se dire, OK, je vais grossir. Je vais me partir deux, trois autres succursales pendant que ça va bien, alors qu'on est dans une entreprise cyclique qui pourrait tomber. Puis on se retrouve avec ces 4-5 succursales qui tombent toutes en même temps, comme on a vu dans la restauration.
On est plus à risque, finalement.
Oui, on a vu ça dans la restauration récemment. Ben, puis c'est pas terminé. Alors, ce que je dis en période de croissance...
Louis-François, t'as-tu fait ça? Toi, ça t'est-tu arrivé, justement?
Assez prudent. J'aurais pu prendre l'expansion, par exemple, plus vite. Après ça, moi, il y a beaucoup d'opérations. Tu sais, ça retouche un peu ça. Ce qu'il dit, c'est que tu peux te mettre le cyclique de la restauration si tu n'as pas des opérateurs pour contrôler de proche ton quotidien, que ce soit financier ou tout le reste. Mais moi, je suis peut-être trop prudent, mais c'est quelque chose qui me freine beaucoup, beaucoup.
Mm-hmm. Ben, t'as pas fait faillite, fait que mission accomplie, là. Donc.
Ouais, mais tu sais, COVID, on passe on sort des années, puis c'est un peu ça dont tu parles, là. Les COVID a fait qu'il y en a qui ont bien été ou pas du tout.
Ouais.
Là, le post-COVID a continué d'avoir une répercussion très tough. Puis là, on voit les résultats actuellement. Puis, il y a des gens qui ont fermé récemment. Puis tu dis, pourtant, c'est des restaurateurs aguerris.
Ouais. Ben, moi, ce que je vais suggérer à des entrepreneurs qui sont surtout dans le cyclique, c'est d'avoir toujours deux sociétés. En temps normal, je pense qu'un entrepreneur devrait toujours en avoir deux. Sa société de gestion et sa société opérante. Et régulièrement, on prend des profits qu'on réfugie dans la société de gestion. Puis de temps en temps, il faut avoir, je crois, une forme de détachement, même si c'est son bébé, de dire, ce coup-là, il faut que je le laisse aller, mais c'est pas vrai que je vais risquer mon avenir. Je vais garder ma compagnie de gestion et l'opérante, elle va peut-être fermer. Puis je partirai d'autres projets plus tard, mais je sacrifie pas mon avenir.
Anne, tu disais, moi, je me vois toujours être investisseur, d'être actionnaire de business.
Oui.
Puis pour toi, en ce moment, à 41 ans, t'as pas de stress d'investir, de sortir de l'argent pour partir des nouveaux projets?
Non, je fais vraiment confiance à mon jugement. Puis tu sais, je fais pas des gros investissements, puis je mise sur les gens. Tu sais, fait que je pense que j'ai quand même un bon flair pour repérer des entrepreneurs qui vont avoir du succès. Est-ce que ça va tout être des licornes? Je pense pas. Mais tu sais, j'essaie de vraiment réfléchir dans tout ce que je fais comme une théorie de portefeuille. J'ai un montant que j'alloue pour faire des trucs qui sont plus volatiles comme ça, mais qui peuvent m'amener un petit peu d'argent. Après ça, j'ai de l'argent placé pour, tu sais, un coussin, justement. Mais non, je suis encore à l'aise de le faire. Puis, je veux dire, j'ai 40 ans, là. Je veux dire, j'en ai pas 70. Fait que j'ai 20 ans pour me refaire aussi, là. Fait que, tu sais, le pire des cas, c'est oui, OK, je perds tout puis je recommence. Mais je pense que ça va être correct. J'ai confiance que je vais être capable de le faire. Je fais pas non plus, là, des transactions qui sont... Tu sais, qui sont folles, là. C'est des investissements. Je regarde quand même les thèses, je regarde les données financières, je veux dire, puis je réfléchis à ce que ça veut dire pour moi, puis si je crois au projet. Mais à date, je me suis pas vraiment trompée souvent, là.
Ben écoute, c'est félicitations. Je nous trouve un groupe assez privilégié dans la conversation. Ouais. Je trouve que, tu sais, on a bien planifié nos retraites. Moi, j'ai eu l'expérience de Ange Québec, qui est un groupe d'investisseurs québécois qui investissent dans les startups. Et c'est beaucoup des personnes à la retraite qui font partie de ça et qui investissent dans des jeunes pousses, dans les startups. C'est l'expression selon le dictionnaire. Et ce qui me fascine là-dedans, c'est d'avoir des personnes justement qui sont à la retraite et qui vont quand même regambler leur fonds de retraite sur des projets en démarrage. Est-ce qu'on voit ça beaucoup?
Oui, mais ils vont compartimenter l'ensemble du portefeuille. Si quelqu'un a l'ensemble de ses capitaux dans sa société de gestion, il peut avoir des REER de côté, ou est-ce que ce sera les investissements les plus prudents qu'on va y trouver? Et puis, tu peux avoir des éléments dans le portefeuille qui sont capital de risque, qui peut représenter
c'est
10-15 %.
Ça ne change pas avec le temps, ce pourcentage-là, parce que moi, je regarde la façon dont j'ai réfléchi, puis je me dis, bon, à mon âge, je suis quand même capable, puis j'ai les reins assez solides pour essayer de prendre un plus gros niveau de risque. Fait que je dirais que moi, je ne suis pas balancée comme ça nécessairement quand je regarde tout mon portefeuille, mais à 70 ans, peut-être que j'arriverai à des ratios comme ça, là.
Bien, en fait, les ratios dépendent beaucoup plus de ses connaissances, de la façon si on est à l'aise, si on dort bien avec notre composition de portefeuille, notre répartition. Okay. Mais c'est évident que l'âge vient à un moment donné où est-ce que si on a moins de temps de se refaire, on va avoir des investissements qui vont être moins volatiles. Mm-hmm. Parce que le risque de tout perdre, ça, il n'y a pas grand monde qui veulent ce risque-là. Mais le risque que ça baisse momentané puis que ça reparte, on est capable de le subir, là.
Et une gestion financière de retraite aussi, on le voit sur les générations avant nous autres qui gardaient de l'argent pour léguer.
Oui, les héritiers.
On a vécu beaucoup ça, puis on dirait que là, peut-être mes enfants sont trop jeunes, mais je suis toujours dans... Je vais en profiter avec eux aussi.
Ouais.
Tu sais, moi, je dis à mon père...
T'as pas besoin
on n'attend pas ton
là.
Cash, là, on opère, puis mon frère puis ma soeur, puis c'est pas ça qui nous...
Ouais. Mais la tendance est plus là.
Je suis pas fou.
Non, c'est vraiment ça.
Mais t'as écrit un livre, Fabien, sur qu'est-ce que je fais avec tout cet argent.
Qu'allez-vous faire de tout cet argent?
C'est...
Puis la conclusion, c'est un peu ça, c'est de dire, vous en avez trop. Vous avez fait votre planification financière, puis vous rendez jusqu'à votre espérance de vie, ou même au-delà, puis il en reste beaucoup. Pourquoi vous ne donnez pas aujourd'hui de manière organisée et que vous ne voyez pas le sourire sur le visage de vos enfants, vos petits-enfants, parce que vous les aidez à acheter une première maison ou la première voiture ou aller à l'école où ils souhaitent aller?
Donc ça, c'est une tendance qui est en croissance.
Beaucoup plus en...
Ah oui, absolument. Je pense que l'après-guerre a engendré énormément d'insécurité, fin des années 40-50, et les baby-boomers qui viennent de cette période-là, cette insécurité de vouloir transmettre au cas où il y a un cataclysme, on veut avoir une petite partie qui va survivre. C'est un peu ça.
Quand un entrepreneur a 90-90% de sa valeur nette dans son entreprise et qu'il veut justement la léguer, qui veut aller vers l'héritage, la transférer. Toi, Louis-François, t'aimerais ça que tes enfants reprennent les restos, mais t'en as besoin pour vivre ta retraite.
C'est un super sujet, là, tu sais.
On aurait dû faire l'épisode en partant là-dessus.
L'entrepreneuriat au Québec est moins bon à cause de ça.
Oui.
Il est difficile. Il y a plein de business qui sont à vendre actuellement sur le marché parce que le propriétaire, opérateur, veut pas la léguer à ses enfants parce qu'il veut la cacher.
Il a besoin de l'argent, finalement.
Donc, tu sais, moi, je vais-tu vendre à rabais mes business ou ma business opérante à mon fils, par exemple, ou à rabais, ou je vais aller la vendre prime sur le marché pour la cacher. Puis ça, c'est un phénomène qui est quand même très, très présent.
As-tu pris la décision?
On est bien trop loin de la retraite. Mais pour moi, c'est pas un... Mon fils, il commence à dire qu'il veut faire son cours de cuisine parce qu'il dit ça va être bon toute ma vie, peu importe ce que je vais faire. On est loin de là, mais... Je pense que, tu sais, on vient de vivre un entrepreneuriat. Nous autres, on vient de racheter une business, mon frère et moi. Puis, tu sais, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas vendre à ses enfants parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. J'ai pas tout le détail, mais c'est l'exemple parfait de c'est plus payant pour le vendeur sur le marché que de céder ou de léguer ou de vendre à rabais.
Puis, lui, ça lui permet de vivre la grosse retraite, justement. C'est qu'il n'est plus impliqué. Il n'a plus besoin d'aider ses enfants. Parce qu'un enfant qui achète l'entreprise, tu vas le coacher. Tu vas te lever le matin, tu ne le laisseras pas tomber. Oui. Là, toi, l'acheteur de l'usine, il est probablement rendu à Caillou Coco, là.
Pas encore, mais...
Ouais. Fabien, tu vois-tu ça beaucoup, cette dichotomie de dire j'ai besoin de liquidité, mais est-ce que je peux léguer l'entreprise? Est-ce que c'est une question qui vient souvent?
Il faut faire ce qu'on appelle un plan en 5 volumes. Et le plus important, c'est le plan d'entreprise. Parce qu'il y a la planification financière, planification de retraite, planification fiscale, tu as les protections. Mais la planification d'entreprise, ça, c'est souvent négligé. La passation de pouvoir, comment vous la voyez, comment ça doit se faire, puis fiscalement, c'est quoi, là? vous avez une filiale à Burlington. Bien là, il y a des préoccupations transfrontalières. Comment ça se passe? Puis l'intérêt des enfants, bien, est-ce qu'il est marqué ou il est juste là parce que c'est le facile. Lifestyle est intéressant comme oui. propriétaire d'entreprise? Ça, c'est des questions beaucoup plus humaines que financières.
Oui.
Mm-hmm. Il faut embarquer là-dedans absolument. Puis la réponse appartient au propriétaire d'entreprise. Et de voir qu'est-ce qu'il y a de besoin pour vivre, ça va être le gros morceau. Puis c'est là que des fois, des gens, il y a 20, 30 ans qui s'est passé, puis ils ont vécu à fond dans leur entreprise, ils savent pas tout à fait c'est quoi le train de vie qu'ils souhaitent quand tout s'arrête. Et là, ça prend du temps avant que ça sorte. Combien ça va me coûter en épicerie, en voyage, en restaurant? Je veux-tu avoir le condo dans le sud? C'est des questions qui surgissent puis qui vont faire qu'on va finir par avoir des réponses. Mais malheureusement, transmettre l'entreprise aux héritiers comme cadeau, ça, je le recommande pas, à moins que l'enfant soit là depuis quelques années et qu'il ait vraiment été impliqué dans le management.
Mmh. Identifié comme la relève et que ça soit clair.
Oui, puis qu'il y a des compétences aussi pour le faire.
Ouais. C'est vrai.
Mais au Québec, il n'y a pas eu beaucoup de success stories d'entreprises qui ont franchi la troisième génération.
Ouais, exactement.
Normalement, ça s'arrête à la troisième, à dépense que les deux autres ont bâti. ça se dissout.
En anglais, ils disent rags to riches, back to the rags, là. Donc, des tapis au bas fond jusqu'à la richesse, de retour au tapis, finalement. Puis, tu parlais du plan en 5 volets. Est-ce que c'est dispendieux de faire ce plan-là? Est-ce que...
Ce qui est surtout dispendieux, c'est de pas le faire.
Très bonne réponse.
Ça, c'est le pitch de vente idéal. Ben, écoutez, ça fait le tour pour le sujet de la retraite. Merci beaucoup. Restez avec nous parce qu'au retour de la pause, on a notre question dérangeante. Et Fabien, est-ce que tu acceptes de rester? Tu sais pas c'est quoi la question, mais ouais. Si t'es là au retour de la pause, t'as pas le choix d'y répondre.
Ah ben, c'est intriguant. Je vais y être.
OK. On écoute ça à l'instant.
Le CA des dérangeants, une présentation de Kiera Capital, la plus importante banque d'affaires indépendante québécoise offrant des services conseils pour vos projets de vente, d'achat et de financement d'entreprise. Avec plus de 300 collaborateurs dans 35 pays, Kiera Capital vous offre un monde à la hauteur de vos projets.
Donc, on est de retour pour la question dérangeante. Fabien est encore avec nous. Donc, question, mesdames et messieurs, roulement de tambour. Où est-ce que vous avez placé votre retraite jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est dans des REER? Est-ce que c'est dans CELI? Des fonds non enregistrés en bourse, des FNB, comme on dit, ETF en anglais. Est-ce que c'est 100% dans vos entreprises? Anne, elle est où ta retraite?
C'est un ensemble de toutes ces réponses. Moi,
dans
j'en
le
ai,
ciel.
J'en,
le...
Oui, c'est ça. Non, mais j'en ai un peu partout. Là, je veux dire, j'ai vraiment un portefeuille très complet. J'ai des mécanismes de hedge. J'ai une structure...
As-tu été accompagnée pour ça?
Non.
Toute seule?
Bien, je veux dire, c'est-à-dire que je suis dans des fonds, certains fonds d'investissement, là, évidemment, là, il y a des gestionnaires pour ces fonds-là, mais pour le reste, non, c'est moi qui fais ma propre planification financière. Fait
que REER, CELI, un peu en bourse, dans des fonds
immobilier,
d'investissement, un peu d'immobilier.
Du venture aussi.
Considères-tu ta maison, où est-ce que tu habites, comme partie de ta retraite, ou ça, tu le mets à part?
Bien, payé, donc oui.
OK. Toi, Louis-François, est où ta retraite?
Même affaire. C'est une recette gagnante.
Ouais. Ton REER de l'UDA.
Oui, tout à fait. J'ai le REER, j'ai de l'immobilier, j'ai plusieurs placements.
OK. Moi, j'ai avoué, c'est encore beaucoup dans des sociétés privées. Mon fonds, j'ai tout placé en immobilier quand j'ai vendu Biogénique. Fait que c'était soit ça ou je partais à Vegas, tout dilapidé parce que j'étais en burn-out. Donc, j'ai mis ça dans du brick and mortar, comme on dit.
Et là, dans le Jack Daniel.
Comme Jack Daniel?
Un investissement dans le Jack Daniel.
c'est ça, ça a été...
C'est une kid, pas mal.
Broum! Ah, je l'aime. Mais non, ça a été... là, je commence à rattraper, puis je pense que c'est ça l'anxiété que je fais autant, c'est que je n'ai pas bien diversifié mon risque.
Mm-hmm. À l'âge là-dessus?
Moi, j'ai 30... Mon Dieu, j'ai 35.
Ah, fait que, c'est
pas correct. Parce que là, il me dit anxiété de retraite.
Mais une comme... statistique qu'on voit beaucoup, c'est que à 8% d'intérêt, ton capital double aux 10 ans, à peu près.
Ouais, c'est 7,2.
7,2?
Oui, bon, exactement.
Pour doubler aux 10 ans. Fait que moi, je fais toujours le calcul combien j'ai de cycles de 10 ans devant moi mm-hmm. encore. Fait que là, je me dis, j'en ai probablement encore 3. Fait que là, je peux doubler. Fait que, en fond, à la 6. Mais c'est. J'avoue que en ce moment, je fais un peu d'insomnie à essayer d'atteindre un chiffre de retraite beaucoup trop tôt, qui fait aucun sens, puis ça m'inhibe dans mes investissements entrepreneuriales. Toi, Fabien, est-ce que faites ce que je dis, fais pas ce que je fais?
Non, je suis très diversifié, mais principalement, c'est dans ma société de gestion.
Mm-hmm.
J'ai des REER, des CELI, et puis aussi un CRI. d'un ancien emploi. J'ai eu un compte de retraite immobilisé et j'ai pris deux actions extrêmement dynamiques, technologiques, dans le CRI, qui rejoint maintenant peut-être la moitié de mes dollars.
T'es sérieux?
Parce que ça a eu un effet multiplicatif. Là, ouais.
Ben, c'est comme Pierre-Yves McSween disait, si les gens avaient investi dans Tesla, dans leur CELI, ça serait du rendement.
Ah, ça ressemble à ça, je pense. Ouais.
J'adore ça. Ben, écoute, c'est des bons conseils, merci. Mais est-ce que tu te vois être capable de vendre ton cabinet à santé un jour ou est-ce que c'est vraiment...
C'est une certitude parce que le bloc de clients se transfère à d'autres conseillers, la demande est très, très forte.
Et ça, ça a une valeur.
Oh, oui, ça a une valeur.
Il va le donner à ses enfants.
C'est pour s'ils sont, s'ils sont impliqués. Merci beaucoup, Anne Martel, Louis-François Marcotte, Fabien Major. Ton podcast qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de balado.
Le Planif,
excellent. 10e saison, en fait, que tu viens de terminer. La 11e commence.
On est dedans le début déjà. Et puis là, j'ai enlevé les noms parce que ça fait trop de saisons.
Bon, on continue tout le temps.
Exactement.
Puis pour nous, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes YouTube, notre chaîne en ligne. On est sur Podcast Balado, Apple, Google, Spotify, le site web www.lesdérangeants.com. Écrivez-nous, envoyez-nous vos questions pour tous les thèmes que vous aimeriez avoir. Et c'était Étienne Crevier qui vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
Les dérangeurs!